Donc, considérons maintenant le psaume 6. Psaume 6. Nous avons des échos d'une certaine fatigue qui peut s'installer, d'une certaine attitude qui peut s'installer chez nous, qui risque de nous décourager, qui risque de nous enlever l'énergie pour accomplir la tâche. La tâche. Nous faisons partie d'un troupeau. Nous faisons partie du corps de Christ, donc ce n'est pas tout sur nos épaules, mais notre partie dépend sur nous. Et Dieu peut décider de nous donner une grande partie à accomplir ou des petites choses pour démontrer notre foi envers lui. Donc, le psaume 6 et le verset 6, c'est un psaume de David, verset 6. Excusez-moi, en partir du verset 5. « Reviens l'Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. » J'ai le visage usé par le chagrin, tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Très intéressant qu'un homme comme David, qui cherchait le cœur de l'Éternel, aurait pu arriver à un tel découragement. On ne peut pas imaginer David comme un homme 100% joyeux en tout temps, dans un sens où il n'avait jamais de problème. Non, David, c'est quelqu'un, comme beaucoup de ceux qui sont des fidèles serviteurs de Dieu, David a rencontré ses propres difficultés, ses propres défis, et il a réussi malgré les persécutions les plus difficiles, même de sa propre famille. Donc, dans le psaume 6, nous voyons un point ou un moment de faiblesse peut-être, mais c'est la faiblesse de David, c'est la faiblesse humaine. Mais qu'est-ce que David fait? Il cherche à avoir plus de force de l'Éternel. Pas de ses propres fonds, pas de son propre source, mais la source de sa force, c'est l'Éternel. Donc, frères et sœurs, nous avons tous des responsabilités dans notre vie. Parfois, nos responsabilités, que ce soit au travail, dans la famille, certains rôles de responsabilité, parfois, nos responsabilités peuvent nous sembler un fardeau. Nous pouvons devenir épuisés. Nous nous sentons parfois anxieux et inquiets parce que nous avons mis notre cœur dans notre rôle et nous ne voyons pas la sortie, nous ne voyons pas le fruit de notre effort. Mais nous pouvons ou nous risquons de tomber dans un état de dépression, de découragement, d'épuisement. Et ce qu'il faut souvenir, c'est que nous ne sommes pas les seuls de passer par là. Nous ne sommes pas les seuls. Si ces choses nous arrivent, c'est parce que Dieu les a permis. Dieu les a permis dans notre vie. Et c'est pour, dans un état général, si nous n'avons pas engendré nos propres problèmes, qui est aussi possible, c'est pour notre bien. Si Dieu permet un juste à rencontrer une telle difficulté, alors c'est pour son éducation. Des fois, la Bible parle d'un châtiment, d'une éducation, d'une correction ou d'un apprentissage même. Mais lorsque nous sommes confrontés à une épreuve particulièrement difficile ou longue, nous pouvons des fois passer par des périodes comme David où nous sommes quand même en train de pleurer. Nous avons beaucoup de larmes, nous ne dormons pas aussi bien qu'auparavant, et ce sont des stress qui sont, encore une fois, communs dans l'état d'humanité dans lequel nous sommes. Mais dans ce cadre, nous avons beaucoup d'encouragement dans la Bible. Nous avons vraiment beaucoup, dans Matthieu chapitre 11, par exemple, beaucoup d'encouragement que les fardeaux, les difficultés que Dieu autorise dans notre vie ne seront jamais trop, parce que nous avons une force. Tout comme David cherchait la force externelle de sa propre force, nous aussi, nous sommes censés d'aller chercher, d'aller prier pour que Dieu nous renforce, pour qu'il soit notre force, pour qu'il devienne notre force. Quand nous sommes les plus faibles, comme nous sommes dans les moments les plus découragés, les plus difficiles, quand nous sommes vraiment épuisés, c'est là, frères et sœurs, qu'il faut vraiment se tourner envers Dieu pour demander la force. Il est facile de demander la force sur le quotidien, de demander une bénédiction sur le repas, de demander un petit peu d'aide pour accomplir nos objectifs de la journée. Mais qu'est-ce qui se passe quand nous sommes vraiment épuisés, comme nous le voyons chez certains qui souffrent, quand nous arrivons au bout et nous n'avons plus d'énergie? C'est en ce moment-là que nous devons nous tourner envers Dieu pour demander de l'aide, de l'énergie. Et je ne veux pas dire que prier sur une prière de joie lorsque nous réjouissons, c'est quelque chose à ne pas faire. Non, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas se décourager autant que nous sommes dans une mentalité, dans un état d'esprit qui nous sépare de cette force, de cette relation tellement importante, n'est-ce pas? Donc nous sommes ceux qui viennent envers lui parce que nous connaissons Dieu. Dieu s'est identifié comme celui qui nous donnera la force nécessaire. Donc, Matthieu chapitre 11, et le verset 28, Jésus-Christ lui-même dit ceci: « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Vous savez, le fardeau qui fait souffrir, c'est le péché. C'est la vie du péché. C'est dépendre sur la vie de ce monde et les promesses qui sont les fausses promesses de ce monde. Ça, c'est pesant, frères et sœurs. C'est quelque chose qui est vraiment un fardeau lourd et difficile. Mais ce que Jésus-Christ est en train de nous offrir, c'est de nous enlever ce fardeau du péché, ce fardeau de doute, ce fardeau de mépris, ce fardeau d'épuisement et de découragement, pour qu'on puisse passer sous son joug, pour être instruit à s'en sortir par sa voix. Donc, et il nous promet d'être doux, et il a déjà démontré son humilité jusqu'à la mort. Et ce qu'il a promis, c'est que nous allons trouver chez lui le repos. Pas juste un sommeil, mais le repos pour vos âmes. Ça, c'est un repos qui dépasse une bonne nuit de sommeil. Et c'est quelque chose que nous sommes censés de chercher quand nous souffrons. C'est ça, à mon avis, frères et sœurs, c'est ce type de réflexe-là qui a donné tellement d'énergie, qui a donné tellement d'enthousiasme à ma belle-sœur, malgré sa souffrance. Elle s'appuie tellement sur la force disponible pour chacun d'entre nous, mais certains ne s'appuient pas sur cette force. Ça ne change pas le fait que Dieu l'a promis, que Dieu l'a ouvert, que Dieu nous a invités d'en profiter. Combien de nous sommes un petit peu réticentes à en profiter pleinement? Combien de nous cherchons à s'en sortir avec nos propres forces? Je crois que c'est quand même facile dans un monde comme dans lequel nous vivons d'oublier des fois que nous avons accès à une force qui dépasse toutes les difficultés de ce monde. Mais Jésus-Christ nous demande simplement de venir envers lui et de se soumettre à lui, à sa volonté et d'obéir à ses commandements. C'est comme ça que nous sommes instruits. Ce n'est pas simplement par l'écoute, ce n'est pas simplement par la lecture, mais c'est par la mise en pratique, par le fait que nous devenons des disciples, des imitateurs. Un disciple n'est pas la même chose qu'un étudiant. Un disciple est quelqu'un qui imite, qui voudrait mettre en lui le caractère même de son maître. Ce n'est pas simplement apprendre quelque chose pour la connaissance. Donc, des fois, malheureusement, frères et sœurs, même ceux qui sont dans l'Église depuis longtemps, peuvent perdre le courage, peuvent avoir des lacunes, des difficultés, des moments où ils passent par des doutes ou des épuisements. Et qu'est-ce qui se passe lorsque ceci continue? Alors, on peut devenir vraiment éloigné de là où Dieu voudrait que nous nous situons dans notre vie avec lui. Donc, des fois, nous travaillons trop dur. Il y a même un proverbe qui dit de ne pas travailler trop. Intéressant, n'est-ce pas? Toujours, on pense au proverbe et on dit que les proverbes nous poussent à travailler, oui, mais pas trop. Pas trop, il y a un proverbe. Donc, des fois, on ne se permet pas suffisamment de temps pour se détendre, pour reconnecter à nos relations sociales et familiales. C'est quelque chose à regarder, être vigilant là-dessus. Une autre chose qui peut nous arriver, des fois, on prend trop de responsabilités sans être suffisamment soutenu. Sans être des fois éduqué pour comment arriver, pour réussir à ses responsabilités. Et malheureusement, des fois, ce que nous, les hommes, des fois, on est un peu trop, on peut dire un peu fiers de demander de l'aide si on se trouve dans une période où on n'a pas les compétences pour accomplir quelque chose. Des fois, les hommes, même des femmes, je peux dire aussi, sont réticentes à demander de l'instruction. On va essayer de faire de notre propre façon, comme ça se voit pour nous, et finalement, on crée d'autres problèmes, parce qu'on avance sans la bonne instruction. Mais ce n'est pas la seule chose à considérer, mais ce type de choses peut nous arriver si nous avons pris trop de responsabilité trop vite. Donc, encore une fois, les relations et le soutien sont tellement importants pour réussir. Donc, nous sommes ici entre frères et sœurs, mais quand nous sommes partis, quand nous ne sommes pas ici, est-ce que nous prions les uns pour les autres? C'est un lien qui devrait nous encourager de semaine en semaine, de jour en jour. Donc, ce que nous sommes en train d'accomplir, je peux dire, c'est une moisson, oui. C'est ça l'objectif de Dieu, c'est d'accomplir son moisson, finalement. Mais pour nous, individuellement, nous l'appelons un peu différemment. 1 Timothée, chapitre 6. Afin d'être un bon ouvrier pour participer aux moissons, nous devons quand même réussir dans le domaine personnel. Donc, 1 Timothée, chapitre 6. Et Paul l'explique dans une façon que j'aime beaucoup, parce que des fois, ça semble comme une lutte, comme un combat. Il y a beaucoup de choses qui voudraient nier à notre développement, à notre avancement, en particulier quand on se met à la tâche d'avancer l'œuvre Si Monsieur Franks a écrit cette lettre de nouvelles cette semaine, c'est pas parce qu'il n'y a jamais eu de problème pour l'Église en termes de rencontrer des problèmes. C'est parce que en rencontrant les problèmes, on a persévéré et Dieu a béni cet effort. Mais ceci ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de décisions difficiles ou de difficultés. C'est un combat. 1 Timothée 6, à partir du verset 11. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. » Il parle de beaucoup d'attitudes, des choses qui sont dans le monde. « Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. » Nous sommes à la recherche de ces choses. Nous sommes en train de cueillir ces choses, de cueillir la justice, de prendre la pitié, d'incorporer ces choses dans notre vie. Et vous le savez aussi que ces choses ressemblent aux fruits de l'esprit aussi, les aspects du fruit de l'esprit. Donc notre combat, notre lutte, notre poursuite de toutes ces choses implique une dépendance sur l'Esprit de Dieu qui est disponible pour nous. Encore une fois, des fois, nous ne sommes pas conscients, nous n'appuyons pas sur la force qui est disponible pour nous. Nous l'ignorons des fois, mais nous sommes à la recherche de ces choses. Je trouve très bien cette expression pour rechercher. Allez, ne pas se contenter que ces choses nous arrivent comme ça, aléatoires, mais d'aller les chercher, de fixer un objectif, et d'aller chercher la justice, de fixer un objectif, d'aller chercher la piété. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, verset 12? Combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Très intéressant que Paul souligne le bon combat. Dans le monde autour de nous, il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de combats. Mais nous ne sommes pas censés de nous engager dans ces choses. Nous sommes censés de nous engager pleinement, 100%, au bon combat. Le bon combat. Il n'y a pas de combat plus intéressant, plus important que le combat de la foi. Si nous perdons le combat de la foi, les autres combats ne valent rien. Parce que sans la foi, on ne peut pas faire plaisir à Dieu. N'est-ce pas? C'est marqué dans Hébreux 11. Paul décrit un combat saisit la vie éternelle. Il y a une ténacité, une persévérance là-dedans, n'est-ce pas? Et très intéressant, nous ne l'avons pas choisi nous-mêmes, dans un sens, nous n'avons pas découvert par hasard cette voie dans laquelle nous sommes engagés, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions poursuivre cette vie? C'est que Dieu nous a appelés. À laquelle tu as été appelé. C'est une bénédiction, frères et sœurs. C'est un miracle que Dieu nous appelle. Est-ce que nous l'apprécions? Des fois, on dit, j'ai beaucoup étudié, et puis j'ai découvert ça, et j'ai découvert ça, et c'est moi. Non, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui est intervenu pour toi, pour te sauver de ce monde corrompu. On ne peut pas se donner rien. On ne peut pas se donner une responsabilité là-dessus. Certainement, nous avons répondu à l'appel. Et cela, c'est quand même une démonstration de la foi. Mais il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui nous appelle. Et Paul, dans le milieu de cette discussion, il ne veut pas du tout que nous oublions cette intervention, ce miracle que Dieu a fait pour nous. Sinon, on risque de dire, Ah ben oui, c'est moi qui a combattu le bon combat. Moi, je suis comme Muhammad Ali. Ouais, ouais, je suis vraiment un bon combatteur. Il se donnait tellement de compliments quand on voit les vidéos, les entretiens avec ces gens-là. Et ce n'est pas nous, isolés dans notre propre foyer, tout en faisant le bien dans le domicile chez nous, tout seul, non. C'est devant un grand nombre de témoins. Et si nous avons confessé en présence d'un grand nombre de témoins, ce n'est pas l'objectif que tout de suite après, allez, au revoir, on se voit plus tard au royaume. Non, ce n'est pas l'idée. C'est qu'on reste ensemble, n'est-ce pas? C'est que ces témoins sont censés de nous encourager. Hein? C'est la gang. Pour ceux qui, ici au Québec, la gang nous encourage, n'est-ce pas? La gang est là pour nous. Mais on n'est pas un gang dans un sens comme ça. Mais c'est chacun de nous qui sommes là pour nous encourager les uns les autres. Dans ce même combat. Encore une chose qui nous réunit, n'est-ce pas? Une seule foi, n'est-ce pas? Un seul Dieu, un seul Seigneur. Il y a des choses qui nous unissent ensemble. Et le combat pour la foi, c'est quelque chose qui nous unit, qui est censé de nous unir. Donc, nous sommes encouragés par ces choses. Le combat de la foi, c'est un combat contre toutes sortes de forces, spirituelles et physiques, émotionnelles, y compris celles qui nous poussent ou qui poussent les gens à lâcher, à arrêter, à changer de voie, à rechuter dans le monde, à prendre la voie de sortie. Mais si nous pouvons constater ce besoin de ne jamais abandonner le combat de la foi, alors nous allons nous préparer pour une vie éternelle pleine de bénédictions que nous ne pouvons même pas tout imaginer aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour continuer à persévérer? Qu'est-ce qu'il nous faut? Si nous gardons à l'esprit le contexte, le cadre de découragement, de défi, d'épreuve, qu'est-ce qu'il nous faut pour surmonter toutes ces choses? Pour arriver vraiment à se dire, j'ai poursuivi la perfection devant moi, la maturité spirituelle. Qu'est-ce qu'il nous faut pour continuer à pousser, pour atteindre ce but? La barre est très élevée si nous cherchons à imiter Jésus-Christ, si nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Nous avons une barre très très haute, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous nous assurer que nous allons continuer malgré tout à essayer, à persévérer, à viser la perfection, même lorsque nous sommes confrontés à certains des défis les plus difficiles de la vie? Quelles sont les clés? Ben, j'ai quelque chose à vous offrir, quelques points à vous offrir aujourd'hui. Dans un grand point, c'est de se souvenir justement de notre responsabilité à l'égard de Dieu. Parce que c'est exactement ce que Paul nous a dit dans 1 Timothée 6, c'est que nous avons une responsabilité et nous avons quand même, il a déjà mentionné, nous avons confessé, nous avons promis dans un sens. Nous nous sommes engagés devant tout le monde d'aller poursuivre cette lutte, ce combat jusqu'au bout, de ne pas lâcher, d'aller jusqu'au bout. Donc, l'idée de se souvenir du contexte, de l'importance de ce combat, et de ne pas simplement dire, bah, c'est quelque chose que j'ai fait, c'est une tradition de ma famille, bah, j'ai été élevé comme ça, donc je fais comme ça. Non, ce n'est pas suffisant pour réussir. Nous ne pouvons pas simplement suivre dans les pas de quelqu'un d'autre sans engager nos propres développements, notre propre énergie et effort. Il est très important. Donc, on doit chercher à faire la volonté de Dieu nous-mêmes, personnellement. Hébreux chapitre 10. La volonté de Dieu, qu'est-ce que c'est? Il y a quand même une citation ici, dans Hébreux chapitre 10, qui nous rappelle justement de cet exemple parfait que nous cherchons à imiter. Mais c'était tellement important de se souvenir de ces choses que nous avons préservé pour nous dans Hébreux 10, versets 5 à 10, ces propos. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Pour faire ta volonté. Jésus-Christ est venu. Il s'est débarrassé de sa gloire pour être présent parmi les hommes. Hein? Pour être présent parmi les hommes. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Il s'est présenté devant les hommes, parmi les hommes. Le royaume est parmi toi, parmi vous. Le royaume est avec vous, c'est ça qu'il voulait dire. Il était le futur roi de ce royaume à venir. Et puis au verset 8, après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Il a fait la volonté de Dieu le Père. Nous cherchons à faire la volonté et Jésus-Christ nous démontre comment le faire. Il nous explique en le faisant. Il nous explique avec des paraboles. Il nous l'explique avec ses commandements qui sont les mêmes, qui sont conformes à celles que nous trouvons à ceux que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Ils sont conformes. La volonté est là. Et nous sommes censés apprendre cette volonté. Et justement, ce que nous avons cité tout à l'heure, c'était cette idée de joug, cette idée de fardeau très léger. Il est doux. C'est se soumettre, c'est s'humilier devant lui pour apprendre sa voie en le faisant, en le vivant, en le sentant, en étant des disciples de Jésus-Christ. Et si on peut se dire oui, oui, j'ai déjà appris ces choses depuis ma jeunesse. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Oui, le jeune riche. Mais on peut faire encore mieux, n'est-ce pas? On peut faire davantage. Psaume 143, on peut toujours rester dans une logique de s'améliorer, de se perfectionner avec l'instruction que Dieu nous accorde. On ne se contente pas à dire: oui, j'ai déjà lu les proverbes quand j'avais 16 ans, ça m'a beaucoup aidé, et je ne lis plus les proverbes maintenant. Non, mais frères et sœurs, la Bible n'est pas comme ça, c'est une parole vivante pour nous. Nous sommes censés de continuellement glaner davantage, de pouvoir l'incorporer. Et c'est nous qui changeons, c'est nous qui évoluons. Nous n'allons pas lire de la même façon quand nous avons 16 ans que nous lisons quand nous sommes mariés avec 2 enfants à la maison. Ça ne va pas sembler pareil. La parole vit et la parole s'adapte à nos besoins. Et nous, c'est nous qui changeons, mais la parole ne change pas, mais notre interprétation, ce que nous glanons de la parole, peut changer avec le temps. Donc, n'arrêtons pas à approfondir notre connaissance, notre familiarité avec la parole de Dieu. Psaume 143, verset 8. « Fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Je crois que ça fait partie de nos cantiques les plus préférés, n'est-ce pas? Verset 9. « Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Frères et sœurs, ne cessons jamais à prier cette prière. D'être délivrés de nos ennemis, mais d'être de plus en plus instruits, de faire la volonté de Dieu. Et quand même, nous avons quand même dans la vie, nous développons, nous évoluons, donc nous avons des désirs, des volontés, des souhaits, n'est-ce pas? Mais est-ce que ce que nous désirons est en conformité avec ce que Dieu voudrait pour nous? C'est ça la question. Nous avons le droit d'avoir certains objectifs, des désirs, des choses que nous voudrions accomplir. Mais l'idée, c'est de prier que sa volonté soit faite, tout en avant d'autres choses. Et en même temps, on peut se dire, on peut prier que nos efforts, que nos objectifs soient conformes à sa volonté. Et que Dieu nous donne aussi l'attitude, le comportement de faire promptement et fidèlement tout ce qu'il exige, même si nous devons supporter des choses, des imprévus, des difficultés, nous devons les supporter avec patience et reconnaissance envers Dieu, que c'est lui qui nous a permis, de passer par là. Parfois, nous regardons autour de nous et nous ne voyons pas le devoir qui se trouve juste devant nous, parce que nous sommes en train d'ignorer ou de poursuivre d'autres choses. Mais finalement, quand on revient à la réalité, le devoir est juste devant nous. Des fois, c'est tellement simple, mais si nous sommes découragés, épuisés, distraits, nous pouvons ne pas voir les choses les plus simples qui sont juste là devant nous. Nous devons ne pas perdre cette perspective. La vie que Dieu veut pour nous, c'est une vie simple, c'est une vie de simplicité et de paix. Des fois, nous sommes en train de poursuivre des choses qui vont trop loin, qui vont nous diluer et nous distraire de ce devoir qui est juste devant nous. Nous devrions saisir, justement, tout comme Paul nous a dit dans 1 Timothée 6, saisir cette responsabilité devant nous. Pas juste simplement, oh oui, j'arriverai à ça plus tard, mais saisir, parce que le moment est là, le jour est là. Justement, Jean chapitre 9, en parlant de ces choses, même Jésus savait qu'il avait une mission à accomplir dans un laps de temps, dans une période de temps, 3 ans et demi de ministère, n'est-ce pas? Il avait une mission à accomplir et après cela, la fenêtre serait fermée. La fenêtre d'opportunité n'allait pas rester ouverte pour toujours. Si, et je crois que nous l'avons déjà étudié dans notre étude biblique pour les Actes, c'est que le monde s'est totalement préparé pour l'arrivée de Jésus-Christ et pour la prédication de l'Évangile après par l'Église du Nouveau Testament. Tout le monde, le grec et romain, s'est préparé dans un sens. Dieu a autorisé ça. Dieu a fait des préparatifs pour que cet Évangile soit accessible et prêché dans le monde entier. Et nous avons discuté cela. C'était quand même évident le jour de la Pentecôte où il y avait tellement de gens qui étaient là pour entendre et pour voir ces choses. C'est pareil pour nous, frères et sœurs. Dieu peut préparer le terrain pour que quand on met notre effort là-dedans, ça soit fécond, ça soit fructif. Jean chapitre 9. Nous avons une guérison ici, quelqu'un qui était aveugle de naissance. Et donc, comme nous le savons, Jésus se promenait, il guérissait les gens à droite, à gauche. Il enseignait en marchant, il parlait les Écritures, il parlait la parole de Dieu. Il parlait de ces choses, il annonçait la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Verset 4, juste après cette guérison. « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Chacun de nous, dans un sens individuel, nous avons des fois des ouvertures, des opportunités où on peut œuvrer, on peut accomplir beaucoup. Mais si on voit ces choses s'ouvrent devant nos yeux et on n'est pas prêt à mettre l'effort là-dedans, qu'est-ce qui se passe? On a raté une opportunité pour produire quelque chose qui rendrait gloire à Dieu. C'est ça qui arrive. Donc finalement, Dieu aurait pu être glorifié par nos petits efforts, parce que c'est lui qui avait ouvert la possibilité devant nous, et nous n'avons pas dit oui, nous avons dit, je suis trop fatigué, j'ai pas l'énergie, je suis trop découragé, je peux pas faire. J'attends une meilleure opportunité pour l'avenir. Frères et sœurs, le moment est maintenant. Le moment est maintenant, il n'y a pas d'autre moment. On n'est pas luxueux dans le temps qui nous reste. Il est jour, maintenant. On fait l'œuvre de Dieu maintenant. Vous avez, avec moi, vous avez lu la lettre de M. Franks. On est béni avec des ressources. Il faut l'accomplir. Il faut faire avec quelque chose ce que Dieu nous a donné. Avec la foi, bien sûr, avec la foi que si on a prié là-dessus, si on a demandé à son aide et sa que Dieu nous guide dans ce sens, que nous n'avons rien à craindre. Et si ça ne marche pas, c'est que Dieu l'a permis de tomber en ruine. C'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a autorisé. Mais si Dieu ouvre ses portes très larges et on se dit « j'ai trop peur, je suis pas prêt, je ne peux pas », je laisse quelqu'un d'autre le faire. Est-ce que nous sommes en train de lutter le bon combat, de combattre le bon combat, si nous sommes en train de regarder les bras comme ça, de l'extérieur, et dire, « Oh, j'espère que ça marche pour eux, quand nous sommes censés d'être pas à eux et moi, mais un. » Nous sommes censés de ne pas être des observateurs dans l'Église de Dieu, mais d'être des ouvriers pour Dieu. Et en même temps, nous travaillons les uns pour les autres, bien sûr, mais dans une façon ultime, nous sommes à lui. Nous apportons à lui. Et nos efforts sont pour rendre gloire à lui, pas à nous-mêmes. On a une fenêtre, frères et sœurs. Il fait jour maintenant. Il est jour. Dieu nous a déjà confié une mission. Est-ce que nous l'accomplissons avec enthousiasme, avec le tout, avec notre force? Ce que ta main trouve à faire, faites-le avec ta force, pas légèrement, pas à moitié, mais à 100%. À 100%. Est-ce qu'il nous reste de l'essence à la fin où on aurait pu faire mieux, où on aurait pu faire plus? Est-ce qu'on va regretter notre manque d'implication plus tard quand il fait nuit? Quand il fait nuit ou quand on n'a plus, la possibilité, l'énergie, la jeunesse, j'en sais rien. Il y a des fenêtres, il y a des moments qui sont là, qui vont nous dépasser si on ne saisit pas la possibilité, l'opportunité qui est aujourd'hui. Et il faut le saisir en abondance, pas juste un petit peu, un morceau, s'il te plaît. C'est quelque chose qui est intéressant des fois, quand on voit les enfants, ils vont essayer un nouveau repas, ils vont juste prendre un tout petit peu, ils sont un peu douteux sur le goût de quelque chose. Mais, frères et sœurs, nous sommes informés. Nous sommes informés de la tâche et des ressources disponibles. Nous n'avons plus à se dire, bah, je prends juste un petit peu, je laisse le reste. Non, nous sommes affamés pour faire sa volonté, n'est-ce pas? Romains chapitre 15. On doit être rempli, plérou, débordant de la volonté de Dieu qui devient la nôtre. C'est ça l'objectif. C'est que, en faisant le mieux que possible pour nous éliminer du péché, pour nous éloigner de toutes ces choses, on s'approche de Dieu et notre volonté devient conforme à sa volonté. Avec l'apprentissage, avec l'éducation, avec la persévérance, on peut y arriver. C'est beaucoup mieux d'être comme ça et de savoir, voilà la volonté de Dieu, que se dire, bah oui, intéressant ça. C'est la volonté, oh, quelque chose philosophiquement intéressante. J'aime beaucoup cette philosophie. Non, Jacques nous a même dit, montre-moi quoi? Montre-moi ta foi par tes œuvres, n'est-ce pas? Je te montrerai ma foi par mes œuvres, c'est ce qu'il nous a dit. Romains chapitre 15 et le verset 13. Que le Dieu de l'espérance, c'est comme une petite prière ici, des paroles de bénédiction de l'apôtre Paul. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. C'est quoi le combat? Le combat de la foi, n'est-ce pas? Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Quand on parle de l'abondance spirituelle disponible à nous, frères et sœurs, ce n'est pas juste un petit morceau. Ce n'est pas juste un goût. C'est beaucoup plus qu'on aurait pu imaginer. Mais il faut commencer. Il faut commencer à avaler. Il faut commencer à profiter de cette abondance présente qui est là pour nous. Sinon, on ne peut pas attendre la croissance. Il faut s'engager. Il faut semer. Il faut arroser. Il faut travailler, labourer les terres pour que ça produise quelque chose. C'est ça, la même chose pour nous. Il faut labourer cette terre pour que la semence, quand ça tombe ici, pour que ça produise quelque chose de bien. La parabole du semeur, ça peut appliquer à des nouveaux appelés, mais ça peut nous appliquer aussi. Le fait que notre grandissement, notre fait d'agrandir dans la foi, dépend de notre augmentation de compréhension et de connaissance et de production, si vous voulez, de fruits. Ça demande de l'effort, ça demande un engagement à 100% pour en profiter 100%. Et nous sommes là tout en amour pour Dieu et les uns pour les autres. Donc, 1 Corinthiens 13. Intéressant que dans ce chapitre de l'amour, Paul fait référence à quoi? La souffrance. Pourquoi dans un tel passage, tellement joli, tellement plein d'espoir, pourquoi se référer à la souffrance? Est-ce qu'on ne peut pas parler de la souffrance plus tard et parler de l'amour maintenant? Non, frères et sœurs. Vraiment, il faut les apprendre. Il faut apprendre l'amour et connaître la souffrance. Il faut connaître le résultat de la souffrance aussi. Considérons le verset 4, 1 Corinthiens 13, le verset 4, « L'amour est patient ». Voilà des qualités de l'amour que nous sommes censés à développer, à incorporer. Encore une fois, nous sommes des disciples. Donc, si ces choses sont là, c'est que Jésus-Christ les a déjà accomplies pour notre exemple. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Ben, moi, je suis patient une semaine ou deux, et après, ben, j'ai plus patience après deux semaines. Non, l'amour est patient, patient longtemps. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Si nous sommes en train d'être envieux, de se regarder les uns les autres avec envie, ça ne va pas produire l'amour, frères et sœurs. Il faut mettre ces choses de côté. Donc, à la fois, intéressant, nous confrontons la difficulté à mettre en pratique ces choses, tout en lisant les qualités de l'amour. Nous sommes face à face avec la matière, avec vraiment la matrice de ce qui est l'amour. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. C'est pas l'amour. C'est pas l'amour. Bon, facile à l'identifier, mais est-ce que c'est facile à s'identifier, à l'identifier en moi? C'est ça la question. C'est facile pour moi à repérer. Ah oui, oui, ça c'est l'orgueil. Ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est l'envie. Oh, facile. Oh, je connais celui-là. Ça, c'est quelqu'un qui se vante. Mais, oh, qu'est-ce qu'il fait quand on se regarde à l'intérieur de nous? Est-ce que c'est possible de le voir chez soi? Est-ce que c'est facile? Ou est-ce que ça prend beaucoup plus d'efforts? Beaucoup plus de lutte? De lutte? De combat? Pour que l'homme intérieur admet qu'il est blessé ou qu'il a tort ou qu'il est quand même imparfait. Verset 5. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. De la vérité. Est-ce qu'on se réjouit de la vérité, de Dieu? Verset 7, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Dans quelques versets ici, nous avons tellement de travail à faire, n'est-ce pas? Tellement de travail à faire pour ne pas lâcher, pour persévérer. Parce qu'encore une fois, tout comme Paul l'a mentionné, on peut faire beaucoup de choses. On peut parler en langue, on peut donner, on peut prophétiser, on peut avoir beaucoup de science et de connaissances, mais qu'est-ce que ça produit s'il n'y a pas d'amour? L'amour pour soi, c'est facile. Mais l'amour pour Dieu et notre prochain, c'est ça l'amour dont on parle ici. Ces choses ne sont pas profitables s'ils ne sont pas bien placées. Donc, notre travail, souvent, n'est pas sur notre capacité à prophétiser, notre capacité à parler en langue. C'est pas là le travail, normalement. Le travail, c'est dans notre fort intérieur, de s'assurer que nous imitons l'amour de Jésus-Christ et en prenant plusieurs, bien sûr, listes de l'apôtre Paul. Ils sont partout dans ses épîtres, mais il nous donne ici même une liste qui concerne notre implication sincère pour développer l'amour. L'amour qui peut changer notre relation dans notre mariage. L'amour qui est capable de changer notre relation avec nos enfants. L'amour qui est capable de changer notre relation avec notre famille élargie, avec nos frères et sœurs, avec notre voisin, notre prochain, avec la personne à la caisse, au supermarché, L'amour comme ça est tellement puissant que cet amour changera votre façon de parler, d'interroger avec les gens. Si vous ne l'avez pas encore essayé, faites un tout petit peu et vous allez voir des résultats incroyables. Faites grand pas et vous allez voir des résultats inimaginables. Vous n'avez pas imaginé qu'est-ce que vous pouvez obtenir dans votre mariage. Qu'est-ce que vous pouvez obtenir dans votre relation avec vos enfants. Et encore une fois, frères et sœurs, ça ne vient pas de nous du tout. Mais ça demande notre effort. Ça demande de creuser, de s'impliquer, de ne pas se contenter avec du statu quo. Si Satan a réussi à nous convaincre que nous sommes arrivés et tout est bon et nous avons tout ce qu'il nous faut, alors nous allons cesser à croître. Nous allons cesser à croître et nous risquons, comme Paul l'a averti aussi, de tomber. Nous risquons de tomber. Psaume 37, juste un petit passage. On doit faire du sabbat un délice. On doit faire de cette façon de vivre, cette voie, cette marche avec Dieu, ce parrainage que Dieu nous offre. On doit faire de ceci des délices, un grand plaisir. Nous ne pouvons pas dédaigner la voie et les instructions de Dieu, même la correction de Dieu. Nous devons l'accepter avec joie, avec l'idée que c'est lui qui sait plus, lui qui sait mieux que moi. Et c'est ça, humainement, c'est difficile d'admettre que quelqu'un d'autre sait mieux que moi. Car personne connaît moi comme moi, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai. Dieu nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Psaume 37, et le verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous sommes déjà, des fois, tellement préoccupés avec les désirs de nos cœurs qui portent sur la vie calme, notre travail, notre maison, notre loyer, les choses comme ça. Nous sommes préoccupés des fois avec ces choses et nous oublions à faire de l'Éternel notre délice. Pas juste un petit morceau, mais comme c'est le meilleur repas que nous n'avons jamais mangé. Ça, c'est le délice. C'est ce qu'il veut pour nous, frères et sœurs. S'il nous a appelés à cette église, s'il nous a appelés à cette façon de vivre, c'est pas pour que nous allons pouvoir survivre avec beaucoup de souffrance et pas de croissance. Non, ce qu'il nous a offert, c'est que ça devienne notre délice et que nous allons pousser, croître, développer, changer, devenir un homme nouveau, une femme nouvelle. On ne change pas de femme, mais une femme nouvelle. D'accord? C'est la femme qui change en elle-même. OK? OK, vous êtes réveillés. D'accord. Mais des fois, nous avons des plaintes, n'est-ce pas? Des fois, nous avons des plaintes, des choses que nous devrions méditer, que nous souhaitons changer. Et Pierre nous exige, dans 1 Pierre 4, si nous nous trouvons dans une épreuve, si nous nous trouvons dans une difficulté, nous avons le droit de ne pas être confortable, d'accord? Ça, c'est un droit, de ne pas être confortable. Saviez-vous que c'est un droit? Une permission que Dieu nous accorde de ne pas être confortable en tout temps? Quoi? Moi, je voudrais toujours être à côté de mon feu, mon foyer, chez moi, très confortable. C'est ce que nous cherchons, n'est-ce pas? C'est le confort. C'est l'homme qui cherche le confort. Mais attends, il est mieux, il y a mieux que ça, frères et sœurs. Il y a mieux que ça. Même si c'est quelque chose de très agréable. Pour changer, il faut des fois quitter le confort pour poursuivre quelque chose que Dieu veut pour nous. 1 Pierre 4, à partir du verset 10, « Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Hop, est-ce que c'est écrit que chacun de vous mette à votre propre service les dons qu'il a reçus? Non. C'est marqué « mettre au service des autres le don qu'il a reçu ». Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Donc faisons attention à nos sujets de discussion, nos attitudes. Même en Proverbe, on lit plusieurs reprises qu'on n'est pas censé de multiplier les mots. On doit faire très attention avec ce que nous discutons, avec nos mots, avec nos propos. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Intéressant, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. C'est ça. Il y a une force disponible pour nous. Pas juste un tout petit. Et une grande force. Mais j'arrive à mon point, verset 12. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Vous avez le droit de ne pas être confortable. Ne trouvez pas étrange d'être là, dans la fournaise de l'épreuve. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que c'est extraordinaire d'être dans une épreuve? Apparemment, non. Apparemment, ce n'est pas extraordinaire. Bon, c'est dommage, j'avais un très bon récit personnel. C'est dommage. Ce n'est pas extraordinaire. Mais, frères et sœurs, ça ne veut pas dire que nous ne vivons pas de choses incroyablement difficiles. Ce que ça veut dire, c'est que vis-à-vis de notre relation avec Dieu, nos attentes se limite pas au confort. On n'est pas étonné. Oh, qu'est-ce que Dieu m'a laissé faire? Qu'est-ce que Dieu m'a fait maintenant? Ça fait comme les enfants d'Israël, n'est-ce pas? À chaque petite difficulté, ils se plaignaient contre celui qui les a sauvés de l'Égypte. Qu'est-ce qu'on fait au contraire? Ça se trouve au verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Nous sommes des disciples de Christ. Il a souffert. Si nous devons imiter Christ, nous allons souffrir. Et nous allons apprendre comment souffrir. Nous n'allons pas juste souffrir pour rien. Si nous souffrons et nous faisons comme le monde, nous avons raté une fenêtre ouverte d'opportunité pour la croissance. Nous avons laissé passer quelque chose que nous aurions pu apprendre. Et alors, qu'est-ce que Dieu, je dirais, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Hop, c'est de vous permettre de nouveau de tomber dans la fournaise de l'épreuve, n'est-ce pas? Jusqu'au moment où on se dit, ah, Dieu a quelque chose à m'apprendre ici, je dois le faire correctement. Réjouissez-vous. C'est très difficile, honnêtement, chers frères et sœurs, même de voir un membre de la famille qui souffre. Moi, je ne suis pas là-dedans personnellement, mais juste de l'observer et de se dire pourquoi Dieu permet ces choses. C'est difficile de se réjouir. Mais c'est notre rôle. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Je partage la vie que Christ a vécue pour moi quand je souffre comme Christ. Encore une fois, pas quand je souffre en m'éloignant de Dieu et en revenant dans mes anciennes habitudes. et dans le péché, non, je souffre avec Christ quand je fais comme lui. On fait part de quelque chose beaucoup plus grand que nous. Et Dieu a un objectif, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Les moments qui précéderont le retour de Jésus-Christ seront terribles pour ce monde. Et si ceux qui se trouvent dans le lieu de sécurité, les 3 ans et demi avant le retour de Jésus-Christ, si on est quand même conscient de la souffrance parce que nous connaissons les Écritures, nous allons pleurer, frères et sœurs, parce que nous ne voulons pas que le monde souffre. Nous ne voulons pas entendre les cris et les souffrances de ceux qui sont en rébellion contre Dieu. Ça ne sera pas un sujet de gloire et de réjouissance pour nous. Nous allons pleurer, nous aurons beaucoup de larmes, parce que nous allons demander à Dieu d'arrêter ces choses, d'apporter vite que ton royaume vienne, n'est-ce pas? Ce monde doit souffrir. Mais ce monde autour de nous qui n'est pas appelé ne sait pas souffrir comme Christ. Ce monde connaît juste ses propres tendances, ses propres traditions. Mais si nous persévérons, la promesse ici, c'est que si nous persévérons par ces souffrances, avec ces souffrances, malgré ces souffrances, Dieu a préparé quelque chose. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alors, est-ce qu'il y a une clé qui se trouve vis-à-vis de la souffrance ici dans ce petit verset 13? Oui, je crois. Si j'enlève la moitié, si j'enlève la petite partie du centre pour essayer de condenser ce verset, nous avons au début et à la fin de ce verset, la réjouissance. Mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux? C'est une sorte de souffrance, une patience, et puis on peut même insérer tout le chapitre 13 que nous avons lu dans 1 Corinthiens 13. Nous devons apprendre dans ces souffrances à mieux faire. L'amour supporte la souffrance. C'est ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 13, n'est-ce pas? L'amour supporte la souffrance. Pour notre bien, nous devons apprendre ces choses. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil, et etc. Il excuse tout, verset 7, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Il supporte même la souffrance. Et donc si, dans la souffrance, nous imaginons et nous avons la capacité de mettre notre pensez sur le retour de Christ, sur la glorification des saints à son retour, alors nous allons pouvoir nous réjouir malgré la souffrance parce que nous connaissons la fin de l'histoire. C'est ça la clé. C'est la connaissance. C'est la vérité. La vérité qui nous permet de, si vous voulez, de translater, d'aller à travers toutes ces choses pour voir quelque chose qui nous attend, qui est beaucoup meilleur. Que toutes ces souffrances, quand nous souffrons, nous font penser, que ces choses nous font penser pas à la difficulté de cette vie, mais à la gloire qui nous attend. Donc, il y a une clé, je trouve, dans le verset 13, pour passer par la souffrance, pour endurer. Et je suis, frères et sœurs, je suis convaincu que cela fait partie des méditations de ma belle-sœur dans ces jours de souffrance, ne sachant pas combien de jours qui restent Elle cherche à vivre chaque jour pleinement, en sachant qu'à la fin, Christ reviendra et elle recevra un corps glorifié, tout comme Christ, et que ses souffrances auront fin finalement. Et comme nous tous, nous ne sommes pas contents que ce soit juste nos souffrances qui soient terminées, mais que toutes les souffrances arrivent au bout. Et alors, nous allons conclure, nous sommes dans 1 Pierre maintenant. Nous allons conclure avec 1 Pierre 5 et le verset 5. Excusez-moi, le verset 10. Nous devons peut-être réfléchir, est-ce que nous sommes souffrants en ce moment? Est-ce que nous connaissons quelqu'un qui souffre en ce moment? Ou avons-nous connu la souffrance cette année? Frères et sœurs, ne soyons pas étonnés. Ce n'est pas de l'extraordinaire. Malgré cela, il est important, il est essentiel même que notre réponse à la souffrance soit de continuer à lutter le combat de la foi. 1 Pierre 5, lisons ici. 1 Pierre 5. Excusez-moi. Nous avons 1 Pierre 5 et le verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous pouvons méditer ces choses, ces paroles de bénédiction de l'apôtre Pierre. C'est Dieu qui nous rend plus forts, c'est Dieu qui nous instruit. C'est lui qui est en train de nous perfectionner même. Nous devons voir nos souffrances et nos épreuves de cette perspective afin de vraiment réjouir dans cette relation étroite avec Dieu.